Tombouctou yene faso ye. Mo yene faso ye. Sinilu Tombouctou yene faso ye. Go de min tenu de katil la la. Badinya, badinya duwe Tombouctou ye. Sinjiya, sinjiya duwe maliba ye.
Voilà notre façon, notre formule d'entrée dans cette émission, Point de vue. Point de vue où je reçois trois grandes personnalités de la diaspora. Monsieur Julien Kakouvi du Canada. Monsieur Tamayon de Mayon qui est à Indiana. Et monsieur Adolphe Daguin qui est à Tennessee. Et nous allons, moi-même au micro, Gavin Conrad, nous serons ensemble pour 60 minutes. Et au centre de notre réflexion ce soir, il est question du projet de la révision de la Constitution au Bénin. Donc nous allons passer de long en large et les grands aspects qui touchent les commentaires sur les réseaux sociaux et dans les organes de communication. Nous nous intéressons aussi donc à cette situation puisque ça laisse dans l'air beaucoup de commentaires. Donc nous sommes donc ensemble. Merci à nos amis d'être avec nous. Nous allons reprendre avec Fatimata Diawara pour quelques secondes et nous revenons pour que nos amis se présentent. Merci d'être venu.
Merci.
Koyene faso e mbale mwalu Tombouctou yene faso e Ngoyene faso e sinilu Tombouctou yene faso e Gode min tenu de katil la la Badinya duwe Tombouctou e.
Voilà, nous sommes rentrés musicalement par le Mali et avec la musique de Fatimata Diawara. Dans cette émission Point de vue, nous recevons trois grandes personnalités de la diaspora. Nous allons commencer la présentation avec notre ami du Canada.
Oui, bonjour Gabin. Bonjour. Bonjour Adolphe, bonjour à tous les invités qui sont présentement sur ton réseau. Avant de me présenter, je tiens vraiment à te féliciter et à souhaiter un très bon succès à ta radio et en espérant que cette radio puisse avoir beaucoup plus de visibilité parce que je pense que dans cette période où le monde est totalement en mouvement et qu'aujourd'hui notre génération doit penser l'avenir que de s'attarder sur l'histoire. Et puis l'histoire qui fait en sorte que les émotions, l'attachement à nos institutions qui ont été créées depuis 1990 est encore présent, où le conservatisme, continue d'imprégner en fait une majorité de nos élites africaines. Oui. Il va falloir qu'on s'en sorte. Et qu'on pense plutôt l'avenir que le passé.
D'accord.
À ce point, je me présente, je suis Julien Kakouvi. Je ne vais pas me présenter comme une personnalité politique du Canada, mais je souhaite plutôt me présenter comme un acteur et puis un acteur futur de la politique africaine et surtout de la politique béninoise. Donc c'est ça, je suis Julien Kakouvi et puis je suis de notre génération et je suis diplômé en sciences politiques. Et j'étais entrepreneur, j'ai travaillé au Bénin plusieurs fois. Ça fait bientôt 3 mois que je suis revenu du Bénin après une année de mission en tant que volontaire. Cette mission m'a permis de comprendre aussi la réalité béninoise après un long séjour à l'étranger. de 17 ans. Et j'ai vécu la campagne électorale, j'ai vécu les propositions de chaque candidat, j'ai vécu également la campagne. J'y ai participé. Et donc, je pense que je suis bien placé pour donner, pas mon opinion, mais plutôt une analyse un peu plus objective.
D'accord.
Qui va dans le sens de l'émergence de la démocratie béninoise, qui est un modèle.
Merci. Merci. Nous allons, oui, nous revenons. Nous revenons juste après cette pause pour nous permettre de respirer pour retrouver les deux invités. Merci.
Écoutez les grands débats de la diaspora consciente et envoyez vos suggestions. L'Organisation internationale Sauvons l'Afrique est une dynamique économique et financière animée par un groupe de la diaspora africaine.
Merci, merci, chers invités. Nous allons maintenant à Tennessee.
Oui, bonsoir mes frères, Gabin et Julien, et bonsoir à tous ceux qui sont sur ce plateau ce soir. C'est une grande joie pour moi d'intervenir ce soir et pour parler un peu sur ce qui se passe à propos de la révision de la constitution béninoise. Et je suis né au Togo, je suis un Togolais, je parle Adja et il y a les frères Adja au Bénin, donc Bénin et Togo, nous sommes un. Donc, ce qui concerne la politique, le problème de la politique béninoise nous concerne aussi au Togo. Et je suis aux États-Unis, au Tennessee, et j'ai fait l'armée américaine. Et je suis un enseignant, professeur au lycée, et j'avais fait mon bachelor en relations internationales. Et je m'intéresse beaucoup au développement de notre continent africain. Donc, ce serait une grande joie d'être part de ce débat ce soir. Donc, merci beaucoup.
Merci, monsieur Adolphe Daguin de Tennessee. Merci. Nous allons retrouver dans quelques secondes et notre ami de Indiana. On revient tout de suite après cette pause de Piniki. Voilà, nous sommes dans la tranche de présentation. Nous avons commencé par le Canada, Tennessee. Maintenant, nous allons à Indiana.
Alors, bonsoir à tous les amis. Bonsoir Adolphe Daga, bonsoir Capoué Julien, à Conrad. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir sur ce plateau. Je ne sais pas, est-ce que vous me recevez très bien?
Excellent.
Oui, merci.
Oui.
Alors, Conrad, toutes mes félicitations pour ces initiatives qui amènent la diaspora à contribuer au développement de l'Afrique. Et moi, je suis Tameyon Demagbo, je suis professeur certifié de langue moderne de l'État d'Indiana. Je suis aussi spécialiste des sciences de l'éducation. Je suis aussi conseiller à l'orientation académique et à temps perdu, traducteur-interprète, qui était aussi mon profil de base, puisque au Bénin, je travaillais pour le gouvernement béninois comme traducteur-interprète avant de passer à l'ambassade des États-Unis au Bénin comme conseiller académique. Et là, je suis maintenant ici dans l'État d'Indiana où je suis professeur de lycée. Et je fais des cours de français et d'anglais. Et je m'occupe aussi de l'orientation académique des étudiants internationaux. Et voilà, mais voilà, professionnellement. Donc, je ne suis pas spécialiste des sciences de l'éducation, je ne suis pas juriste, mais je m'intéresse particulièrement à un sujet qui mobilise l'attention dans mon pays, au Bénin actuellement. Et le sujet, c'est la révision de la Constitution, et en tant que citoyen, je m'interroge. Merci.
Merci. Merci, monsieur Tameyon. Et nous allons revenir juste après cette petite pause de Ricos Campos du Bénin.
<t'-> harabodi, dido dido dido, rundo harada. Faibi yego do dido na wendo ani jo wa pele pele do. Faibi
yego do dido na wendo ani jo wa pele pele do.
Faibi yego do dido na wendo ani jo wa nendo jero
kakamase, kakamase, kakai kakaza.
Faibi.
Oh, say again, you.
Voilà, et chers auditeurs, chers amis en ligne sur ce plateau de l'émission Point de vue, où je reçois trois grandes personnalités de la diaspora qui sont aujourd'hui avec nous pour faire le point de la situation par rapport au projet de révision de la Constitution au Bénin. Le Bénin qui fait partie des États les plus respectés en Afrique, suivant son option en démocratisation, en état de droit, son institution depuis 90. Le Bénin fait partie de ces pays qui sont beaucoup plus respectés suite aux alternances au pouvoir et périodiquement, et ce qui fait que aujourd'hui beaucoup d'investisseurs s'intéressent à ce pays. Aujourd'hui, et il est question de la révision de cette constitution avec la nouvelle équipe installée depuis l'année passée à la sortie et à la fin du mandat du président Yahi Boni, donc le président Talon qui est aujourd'hui l'actuel président avec son équipe, ont trouvé bon de passer au toilettage de cette constitution, ce qui n'est pas du tout du goût d'une bonne partie de la population béninoise. Aujourd'hui, donc, nous aussi, nous sommes intéressés à ce sujet. Et la toute première question, c'est de savoir quels sont les grands points qui gênent le projet de révision de cette constitution. D'abord, le projet a été transmis à l'Assemblée et l'Assemblée est en train de la confier à la commission des lois aujourd'hui. Donc, quels sont ces points qui sont vraiment gênants et touchants et qui font que nous sommes en train de subir aujourd'hui sur les médias des commentaires allant jusqu'à demander la démission du président Talon comme si c'était une trahison, puisque Talon était venu comme un héros et pour sortir le Bénin entre les griffes, entre guillemets, d'une influence française. Voilà, M. Taméon, quels sont les points immédiats qui touchent vraiment à notre attention en ce qui concerne ce projet de révision?
Le point qui retient particulièrement mon attention, c'est celui relatif à l'immunité des membres du gouvernement, c'est-à-dire l'immunité et en cours d'exercice. Et après le pouvoir, et c'est inquiétant dans une démocratie, puisque la propension de ceux qui sont au pouvoir à dévier est évidente.
Oui.
Et donc à la fin, il doit avoir un système de reddition des comptes. Et si l'immunité les couvre tout de go, pendant qu'ils sont au pouvoir et après, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Pour moi, c'est une dérive fondamentale. Et aussi, j'ai constaté que la Haute Cour de justice va désormais siéger de façon ad hoc. Et elle siégeait déjà de façon... Elle existait de façon permanente. Et pourtant, elle n'a jamais reçu un cas. Hein. Oui. Et là, maintenant, si elle va siéger désormais de façon ad hoc, c'est extrêmement grave, c'est fini. Il n'y a plus de normes. Et les hommes d'État, les politiciens, pendant qu'ils sont en train de gérer le bien public, et n'auront plus peur. Et ça m'inquiète sérieusement. Oui.
Voilà. Oui, merci.
Bienvenue dans l'émission Point de vue. le carrefour des réflexions, des analyses sur les sujets touchant la vie socio-économique ou politique de notre continent. Point de vue, une réalisation et présentation de Courage Adam.
Voilà, et nous allons, je vais directement à M. Kakbovi, Kakbovi du Canada, et pour me dire franchement et si ce point touchant à l'humilité du président, des ministres et des parlementaires n'est-il pas une tendance de culture de l'impunité, Monsieur Julien.
Merci beaucoup. J'ai bien écouté votre interlocuteur. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom, s'il vous plaît?
C'est Monsieur Tamayon.
Tamayon Demagbo.
Oui. Demagbo.
Oui. Écoutez, avant de parler de l'article qui parle de la sanction qui est prévue pour les autorités qui ont en charge la gouvernance de notre pays, j'aimerais d'abord constituer le contexte. Parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas des constitutionnalistes. Et quand une constitution, une proposition, en fait, hein, de constitution est élaborée et travaillée par les membres du gouvernement, et surtout quand nous venons de traverser une période électorale qui était très chargée, et avec beaucoup de propositions, dans lesquelles le président qui est élu aujourd'hui avait prévenu que dès qu'il sera élu, qu'il proposera une réforme de la Constitution. Et le peuple a élu. Et malheureusement, il n'y avait pas de parti politique. Il a élu, mais néanmoins, les partis politiques l'ont soutenu. Ça, c'est notre gros problème au Bénin, où on peut se réveiller du jour au lendemain et être candidat et être élu, ce qui est absolument incroyable dans d'autres pays. Partant de là, je pense que le contexte que nous traversons nous donne la légitimité, en fait, de penser la démocratie comme un plan où chaque groupe, pendant la campagne, présente son plan et le peuple choisit, même si ce peuple, aujourd'hui, reconnaissons-le, est en majorité. Je ne vais pas dire illettré comme certains hommes politiques, mais quand même, ce peuple dont on parle, parmi les 4 millions de personnes qui ont voté pour une population de 10 millions au Bénin, je peux dire que parmi les 4 millions, la majorité ne comprennent pas les enjeux. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que la démocratie est faite pour les peuples qui sont instruits, mais je pense personnellement que pour qu'il y ait une culture démocratique approfondie et compréhensible par tous, que l'éducation est très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple béninois, du point de vue civique, est vraiment formé pour comprendre les enjeux de la politique, les enjeux du développement, les enjeux des réformes? Et sans vous mentir, je pense que nous sommes à un moment où, pour la première fois, nous avons un gouvernement réformiste. Partant de là, je vais revenir sur l'article dont vous parlez. J'ai un article devant moi ici, je ne sais pas si c'est bon, qui dit « lorsqu'ils sont en fonction ». Les décisions, c'est l'article 137-2. Oui. Lorsqu'ils sont en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation des membres du gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont votées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Oui.
Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les membres du gouvernement sont soumis aux juridictions de droit commun. Toutefois, l'instruction est menée par un collège de 3 juges comprenant le doyen des juges d'instruction ainsi que 2 juges au tribunal désignés à tirage au sort. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À part cet article, est-ce que ceux qui sont opposés à cette réforme aujourd'hui sont capables de nous fournir un article qui sanctionne du point de vue objectif les ministres, le président, les autorités qui commettent un crime financier dans notre pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui est écrit ici, juridiquement, ça tient la route. Et voilà, je ne pense pas, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne pense pas que...
Oui, nous allons essayer de gérer le gouvernement... temps,
monsieur. Oui, ça va aller. Je ne pense pas que le gouvernement qui est là en ce moment va travailler sans considérer que s'il y a des gens qui font des crimes, on ne va pas les sanctionner. C'est abusif. Donc, j'aimerais que l'interprétation que nous donnons à ce qui est écrit, noir sur blanc, soit le plus objectif possible. Donc, je pense que, en réalité, cet article tient la route. Et ça tient compte des réalités sociopolitiques de notre pays.
D'accord. OK. Nous allons revenir dans quelques secondes.
Bienvenue dans l'émission Point de vue, le carrefour des réflexions.
Voilà, et je retourne à M. Taméon de Mago, oui. Et pour savoir si, et avec la copie que lui il a, s'il y a un article qui parle exactement de l'humilité totale du président, des ministres et des parlementaires. Comme ça, c'est sur les réseaux sociaux.
Non, s'il faut se tenir à l'article qu'il a évoqué, je pense que le fait d'évoquer que les membres du gouvernement ayant commis des crimes dans l'exercice de leurs fonctions devront passer devant des tribunaux de droit commun, c'est extrêmement grave. Les tribunaux de droit commun, à mon avis, sans des juristes, ne peuvent pas connaître de ces questions et rendre justice comme il le faudra. Et une institution comme la Haute Cour de justice est bien autorisée à connaître de ces crimes, quelle qu'en soit la situation. Et parce que ce n'est pas des gens ordinaires, ce n'est pas des fonctionnaires ordinaires. Vous voyez, c'est des gens, c'est des ministres, il s'agit de chefs d'État, il s'agit de parlementaires, et donc ce n'est pas des citoyens ordinaires, et pour qu'on aille évoquer des situations dans lesquelles il faudra les faire passer devant les tribunaux de droit commun. Et parce que là,
des crimes de droit de droit commun.
Oui, là nous sommes en train de descendre la barre. Vous voyez, nous sommes en train d'ouvrir la vanne hein, pour l'impunité. Et dans une démocratie, il faut maintenir la barre haute. Et dans des sociétés comme les nôtres, où le respect du bien commun n'est pas encore une habitude, où nous sommes dans le processus d'apprentissage par rapport à ça, et par le passé, par notre histoire, nous avons commis des dérives graves. Et pour pallier à tout ça, il vaut mieux que le constituant soit rigoureux hein, pour que nous obtenions quand même justice, hein, pour que le peuple, les aspirations du peuple soient entendues. C'est ce que je pense. par rapport à cela.
Voilà. Okay, oui. Merci, Monsieur Tabayon. Et je vais maintenant demander à notre ami, notre frère Adolphe, ce qu'il en pense oui. de cette réalité.
Oh, merci, M. Gabin. Bon, je pense bien que mes frères, M. Kakoubi et M. Demago, ils ont beaucoup parlé. Et la seule chose que je vois ici, c'est que, bon, bien ce projet de révision de la conscience, surtout cet article 137.1, moi, je dirais que, pour ne pas répéter ce que mes frères ont dit, quand ils parlent de, ils ont dit, lorsqu'ils sont en fonction, les décisions de poursuite de mise en accusation du président de la République pour des faits commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sont autorisées à la majorité des deux tiers des membres composants de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est là où je vais en venir. Vous me suivez, s'il vous plaît?
Oui.
Okay. Allez, c'est là. Et comme les frères l'ont dit, les gens ont commis beaucoup de crimes en Afrique. Moi, je serais un peu plus dur ici pour dire que les deux tiers, c'est trop. Je voulais même à la majorité absolue parce que il est temps que nous commencions par faire peur. Nos dirigeants, ils sont des hommes comme nous, bon, ils commettent des crimes et puis ils se cachent derrière des choses, ils continuent par nous diriger. Et la seule chose que moi je vais ajouter, c'est à la majorité absolue, tout juste à la majorité absolue, pour que, bon, qu'on juge qui tu es, président ou ministre, de là, tout le monde va commencer par avoir peur et penser deux fois avant de commettre des crimes ou bien n'importe quelle chose il veut faire. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci.
Ok, nous revenons dans quelques secondes.
Olu de wili la kubeta tungana, kolu beta wari nini na tungana. Olu yuwala na uto ukaso, olu yuwala pa uto ukaso.
Voilà, et je vais poser une question, et je vais sortir un peu de ce cadre-là pour poser une question à Monsieur Julien. Et ce que nous subissons, ce que nous connaissons aujourd'hui, ces réalités aujourd'hui, et cette crise-là qui est aujourd'hui au niveau social, qui fait que les Béninois, il y a une certaine division au niveau de la classe politique. Vous ne trouvez pas que M. Talon est un mauvais choix? Monsieur Julien.
Écoutez, on ne peut pas dire que c'est un mauvais choix parce que c'est la classe politique, c'est les citoyens, c'est le peuple béninois qui l'a élu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, si je dois répondre concrètement à ce que vous êtes en train de dire, je peux vous dire que c'est de bonnes guerres. Parce qu'en réalité, ceux-là aujourd'hui qui sont en opposition à cette réforme, qui, selon moi, reste quand même une réforme juridiquement positive. Et c'est vrai, il y a des amendements à apporter. J'espère qu'on va aborder cet aspect de la chose. Mais dit qu'aujourd'hui, que c'est une situation de crise, je ne pense pas. Parce qu'en réalité, ceux-là aujourd'hui qui sont contre cette réforme, ce sont ceux-là qui veulent s'approprier une certaine popularité. Et en même temps, ceux-là qui veulent profiter un peu de la richesse, hein, de l'argent de certains leaders d'opinion de notre pays qui ont immensement d'argent et qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le gouvernement actuel, qui ont envie de créer une crise de régime au régime actuel pour pouvoir profiter des violences politiques plus tard et se faire élire peut-être sous la victimisation. On les connaît très bien. Donc je ne pense pas que ça pose un problème, pas du tout, au contraire. Je pense que le Bénin est dans une situation où nous sommes en mesure de montrer au monde entier et de montrer aussi à des pays comme le Togo, à des pays comme le Congo, aux pays africains, que la démocratie, certes, elle est venue d'ailleurs, mais que nous-mêmes, nous pouvons s'approprier cette démocratie et la modeler et puis l'adapter à nos contextes sociopolitiques pour pouvoir avancer, pour qu'enfin qu'on passe à l'autre étape, parce que une fondation, une maison sans fondation ne peut pas avancer. Une maison sans fondation ne peut pas avancer. C'est la même chose pour notre constitution. Si aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de faire cette réforme et puis de mettre en place des structures nouvelles qui reflètent la réalité d'aujourd'hui pour pouvoir avancer, je pense qu'on va rester toujours dans l'émotionnel des années 90. Et le Bénin n'a pas besoin de ça. Nous sommes le quartier latin de l'Afrique et il est temps que nous avançions. Parce que, écoutez, il y a Ibonia a proposé quelque chose, on a dit, c'est parce qu'il veut rester au pouvoir. Je prends le cas de Talon qui disait qu'à la fin du mandat des institutions actuelles, que la constitution est retransférée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de son mandat, c'est à la fin de son mandat que la constitution rentre en vigueur. C'est à la fin du mandat du recours de justice que la constitution rentre en vigueur. Et voilà. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui interprètent que c'est comme s'il va nous faire 7 ans de pouvoir. Il n'a jamais dit ça.
Voilà, merci. Et je trouve que je suis en face de deux parties. Et il y a deux parties. Et il y a une partie qui est pour la révision et une autre partie qui est contre la révision. Je me tourne vers M. Tameyon pour lui demander est-ce que c'est. C'est le moment est bien choisi pour cette révision de la Constitution, puisque aujourd'hui, le peuple béninois, le Bénin traverse une crise socio-économique grave. Pourquoi grave? Parce que déjà, et au lendemain de la prise du pouvoir de Talon, il y avait ces réformes et au niveau, il y avait plusieurs réformes à la fois. Des choses se passaient de façon simultanée et ils se sont jetés sur l'assainissement de la ville, des commerces ont été cassés et certaines sociétés ont été privatisées d'après les choses-là. Donc aujourd'hui, les Béninois attendaient plus mieux que ça et tout ce qu'on leur offre encore, c'est la révision opportuniste de cette constitution. Est-ce que vous trouvez que le moment est bien choisi, M. Tameyon?
Pour moi, cette révision est opportuniste. Et qui dit opportuniste, le moment n'est pas bien choisi. Et vous savez, à toutes les fois qu'un gouverneur a évoqué la révision de la Constitution, mais souvent, il y a toujours eu des tentatives de révision de la Constitution de l'exécutif. Hein. Il s'est toujours agi de projets de révision et non jamais de propositions de révision. Et je n'ai pas encore vu un membre de l'Assemblée nationale, un citoyen ordinaire proposer une proposition de révision. Il s'agit toujours de projets de révision. Et ce qui est... Et Kérékou a essayé, et Yahi a essayé, et maintenant c'est le tour de Talon. Et je me demande qu'est-ce qui crée ce malaise au niveau de nos chefs d'État de réviser la Constitution pour se sentir à l'aise. Pourquoi la constitution par laquelle ils sont venus au pouvoir devient subitement une camisole difficile à enfiler? Et j'ai du mal à comprendre cette attitude. Et puis quand il s'était agi, quand c'était Kérékou, nous étions insurgés contre cette révision opportuniste. Et quand ce fut le cas de Yahi, on s'est insurgé contre cette révision opportuniste. Et Yahi a été... Un grand malfaiteur contre notre démocratie. Yahi a écorché la démocratie béninoise de tous les côtés, sur tous les plans. Yahi a mis à mal le fonctionnement même de nos institutions et constitutionnelles. Et je constate que Talon se met sur la même piste et c'est regrettable. Et là, c'est vrai que mon frère Julien Kakouvi a évoqué tout à l'heure que le candidat Talon a déjà promis pendant la campagne électorale qu'il va se livrer à des réformes constitutionnelles. Oui, nous avons appris qu'il va se livrer à des réformes constitutionnelles. Mais le peuple n'a pas voté pour lui pour venir renforcer ses pouvoirs. Parce qu'il n'a jamais dit en période de campagne qu'il viendra pour renforcer l'exécutif, qui est déjà pour moi très fort parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Et ce n'est pas un régime semi-présidentiel, ce n'est pas un régime de parlementarisme majoritaire. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et le gouvernement est déjà assez fort. Et je ne sais pas de quoi le chef d'État a peur pour se protéger de l'après-pouvoir. Et par rapport à ça, ce n'est pas éthique. Le droit, c'est quoi? Nous pouvons tous aller à l'école, dans une école de droit, dans une faculté de droit ou de sciences politiques, et jouer les gourous du droit, c'est-à-dire le défenseur du diable, et se mettre à défendre des règles de droit qui n'ont pas droit de citer. Pour moi, le droit positif est l'émanation directe du droit naturel. Et le droit naturel est caractérisé par le bon sens, hein, la raison, la recherche du consensus. Je ne pense pas que ce projet de portant modification de la loi 90-032 du 11 décembre 1990 et recherche le consensus. Parce que dans sa majorité, et quand s'il se faisait qu'on allait au référendum, ce que je ne souhaite même pas, le peuple s'en rendra compte, on s'en rendra compte par le vote du peuple. Actuellement, le peuple est fatigué, le peuple est affamé. Le peuple est affamé. Yahid nous a dégoûtés. Et nous ne voulons pas que les comportements, les principes de base de la gouvernance Yahid reviennent. Et ici, on parle d'assainissement de la ville, c'est vrai, les commerces ont été cassés et le peuple survit. Ce qui se passe à Cotonou est extrêmement difficile. Et nous avons, à Cotonou, dans tout le Bénin en général, nous avons des frères, nous avons des soeurs, nous avons des parents et nous les entendons. Nous les entendons, il y a tous les petits commerces pratiquement fermés, les gens sont à la maison et ils se nourrissent de quoi? Est-ce que nos gouvernants ont ça en priorité? S'ils ont ça en priorité, je doute fort que ce projet de révision de la Constitution soit pour eux une priorité actuellement. C'est extrêmement grave. Et il y a comme une rupture de dialogue entre le gouvernement et le peuple. Et je ne sais pas si c'est de cette rupture que le gouvernement parle, parce qu'il s'agit d'un gouvernement dit de rupture. Si c'est ce genre de rupture, ce n'est pas bien. Et je voudrais inviter tout de suite le chef de l'État à savoir raison garder. Tout de suite, je voudrais l'inviter tout de suite à écouter le peuple et à s'occuper des priorités du peuple. Et ce qui est gênant pour moi en tant que citoyen béninois, quand j'ai appris que ce test portant modification de la loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution du Bénin, que ces tests et qu'il est proposé que ça passe en procédure d'urgence, je n'ai pas pu comprendre ce qui nécessite cette urgence. Qu'est-ce qui motive que ça passe en procédure d'urgence? Ça, je n'ai pas compris. Et heureusement, les députés ont jugé bon de renvoyer le texte à la commission des lois pour étude, pour leur produire un rapport dans le fond pour avant que la plénière ne siège sur la question.
Voilà, merci. Nous allons revenir, Monsieur Tavaillon, merci. On revient dans quelques...
Écoutez les grands débats de la diaspora consciente et envoyez vos suggestions. L'Organisation internationale Sauvons l'Afrique est une dynamique économique et financière animée par un groupe de la diaspora africaine.
Voilà, je vais d'abord, avant de retourner chez M. Julien, je vais d'abord à M. Adolphe. Bon, nous sommes, le Bénin traverse une crise, comme tout le monde le sait. Et la première crise, c'est la crise socio-économique due aux réformes. Et maintenant, la seconde crise, c'est que cette tentative de révision, ou ce projet de révision de la Constitution. Est-ce que vous ne pensez pas que la nouvelle administration a une idée derrière cette tentative ou cette démarche, M. Adolphe?
Oui, M. Gabin, vous savez, souvent quand les gens luttent pour aller au pouvoir, chacun est en train de voir quelque chose tout de suite dans la Constitution qui est la loi suprême du pays. Nous tous, nous voyons des lacunes, on devait faire comme ça, on devait changer comme ça. Mais si je vais renchérir avec mon frère Tamenyo, l'Afrique souffre amèrement. Et il est vrai que les articles cités ici ne sont pas, je dirais, les causes les plus importantes de notre retard en Afrique et surtout au Bénin. Donc, dire qu'il faut réviser la Constitution actuellement. Bon, je suis d'accord du fait que des fois nous pouvons réviser la Constitution, c'est vrai. Et même au Togo, si quelqu'un prenait le pouvoir aujourd'hui, il y a des articles à réviser très rapidement. Mais ce qui est très important, comme mon frère l'a dit, les gens souffrent, les gens ne trouvent pas à manger. C'est ça qui est très important. La première des choses, c'est de penser à changer le pays d'une manière positive. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de quoi à manger. C'est cela que les gens attendent. Donc, quand on arrive au pouvoir et tu commences pas à penser à la révision de la Constitution, les gens seront surpris pour dire, mais il est venu pour tailler une place à lui-même, bien chercher ses propres avantages. Et moi, je dirais que même si le président Talon allait changer la Constitution, ce n'est pas le temps. C'est trop tôt. C'est ce que je peux dire, c'est trop tôt. Et il y a un article qui me préoccupe, c'est le mandat présidentiel. Je pense qu'on arrivera à ce niveau, c'est ça qui me préoccupe plus. Et si je suis à la place du gouvernement actuel, on doit laisser tomber cette révision de la Constitution pour penser à relever le défi auquel notre pays et le Bénin fait face aujourd'hui. Merci.
Merci, on revient.
Bienvenue dans l'émission Point de vue, le carrefour des réflexions, des analyses sur les sujets touchant la vie socio-économique et politique de notre continent. Point de vue, une réalisation et présentation de Coralie Adam.
Voilà, je retourne chez Monsieur Julien et pour lui poser cette question. Et déjà que la population est souffrante, et je suis sûr que M. Julien ne peut démentir cette réalité. Il était au Bénin, et j'étais au Bénin l'année passée également, mais il a passé pratiquement toute l'année au Bénin. Il a vécu les réalités, et donc il peut témoigner de cette souffrance-là. Et lorsque le président Talon venait en charge, et pour la population, c'est comme un héros qui fait son entrée. Et quelques semaines, quelques mois après, on voit que c'est des réformes qui ont été déclenchées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater le pire de ce que nous n'attendons pas. Et maintenant, la corruption qui a été pour tout le monde le plus grave pion, c'est-à-dire la corruption qui est l'un des phénomènes les plus dangereux dans un système économique, existe au Bénin. Et c'est comme si le Béninois est né pour développer, pour faire la culture de la corruption. Quand cette équipe est installée, pour la plupart des Béninois, c'est qu'ils ils trouveront de bonnes voies, de bons mécanismes pour réduire réduire simplement la corruption. Et maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que certains robinets ont été fermés et en défaveur de la partie opposante, et tandis que chez eux, ils continuent à privatiser certaines sociétés à leur profit. Je prends le cas de la société de la surveillance de sécurisation de l'aéroport qui est contrôlée, qui était avec une société américaine qui a été, et cette société a été déchargée en faveur d'une société ivoirienne. Et d'après ce que nous constatons, c'est que cette société, il y a des actionnaires dans cette société qui sont membres de ce gouvernement. Et est-ce que, monsieur Julien, vous trouvez que et ce système peut vraiment apporter le bonheur dont nous, et que le Bénin nous attend?
Merci beaucoup, Gabin. Je remercie les deux autres interlocuteurs. Écoutez, il faut être très clair. D'abord, en matière de on n'est pas au Congo. Je ne suis pas pour que les membres du gouvernement puissent être actionnaires des sociétés privées qui rachètent des parts des entreprises publiques de l'État béninois. Et partant de là, moi je ne juge pas tant que la justice ne prononce pas que oui, il y a une défaillance dans les transactions par rapport à cette entreprise qui a pris le contrôle de la sécurité de notre aéroport. Mais ce que je sais, c'est que depuis toujours, nous avons eu des entreprises étrangères qui ne maîtrisent pas le contexte africain, qui ont géré des politiques publiques, des programmes publics dans nos différents pays et qui, depuis 1960, on a vu le résultat. Si on confie la gestion sécuritaire de cet aéroport à une entreprise africaine, tant mieux. Tant mieux si cette entreprise, elle est compétente pour faire le travail. Mais néanmoins, je ne souhaiterais pas voir aujourd'hui, si vous pouvez me citer le nom d'un ministre ou d'un membre du gouvernement qui est membre actionnaire de cette entreprise, et que cette entreprise a eu ce marché parce que ce ministre est dans le gouvernement, là, on peut parler. Passant de là, je vais laisser ce point, je vais aller sur la situation socio-économique de notre pays. Vous parlez de corruption, et vous parlez que, vous disiez que aujourd'hui les robinets sont coupés. Heureusement, d'ailleurs, vous savez, le pays roulait sur les fonds de la corruption, parce que, en réalité, ceux-là qui ont beaucoup d'argent dans notre pays à l'époque, pour construire des maisons à étage, une seule personne va construire 2-3 maisons à étage, des fois on construit même pour sa maîtresse, mais en réalité, les maçons, les ferrailleurs, les ouvriers, les béninois, ils profitent de ça pour aller, par exemple, travailler pour cette personne qui a suffisamment d'argent liquide pour faire ses travaux, ce qui fait que l'argent circulait dans le pays. Donc, quand le gouvernement est arrivé au pouvoir, ils ont coupé tous ces robinets. Aujourd'hui, l'argent ne circule pas comme il devrait. Est-ce que c'est un crime? Je ne pense pas. Je pense que c'est un bon début pour l'assainissement de notre pays, pour l'assainissement économique de notre pays, pour que ceux-là qui travaillent fort puissent en bénéficier du bon salaire et réaliser ce dont leur salaire sont capables de faire.
C'est ça.
Donc, partant de là, ceux-là qu'on a passé, ceux-là qu'on leur a dit, libérer les voies. Moi, en 2012, avec mon association Action Diaspora, je suis allé au Bénin. Je suis allé derrière le stade de l'amitié à Ménotien. J'ai parcouru plus de 2 km, 3 km, avec plus d'une vingtaine de jeunes. Et on a sensibilisé les bonnes dames de libérer le trottoir pour les passants. Parce qu'aller au Bénin, marcher, ce n'est pas vos voitures américaines ou canadiennes ou européennes. Marchez. Marchez sur le trottoir. Vous allez voir comment c'est difficile de marcher. Je me rappelle très bien, quand j'étais encore à Porto-Novo, quand j'ai fait ma mission à Porto-Novo, un colonel de l'armée était sorti un samedi matin en train de faire sa course pour avoir la santé physique. Et il y a une voiture qu'il a ramassée parce qu'il était obligé de descendre du trottoir et de courir sur la voie publique, sur la voie des voitures. La voiture l'a ramassé, il est mort. Alors, que Toboula aujourd'hui dégapisse les trottoirs du Bénin, les trottoirs de nos grandes villes, moi je trouve que c'est légitime. Oui, c'est vrai, on aurait dû penser autrement. On aurait dû dire, bon ok, ceux-là ils vont vivre de quoi? Mais chers amis, les marchés au Bénin, il y en a plein qui sont construits avec les fonds de l'extérieur, avec les fonds des organisations internationales. Les mairies ont construit plein de marchés. Allez à Ouida, vous allez voir les marchés qui ont été construits. Allez à Cotonou, il y a encore des marchés dans lesquels ça pousse, les plantes, ça pousse. Il n'y a personne dedans. Pourquoi ceux-là qui se disent commerçants ne peuvent pas s'inscrire et avoir un régime de commerce et aller dans les marchés? C'est ça la réforme. C'est ça la réforme. Il faut qu'on sorte du conservatisme. Oui, le peuple souffre. Je sais. Moi qui vous parle, j'ai dit à ma mère, jamais tu ne mets ta plaque de coiffure sur la route. Cherche une boutique qui est légale. Aménage-la et rentre dedans et fais ton business tranquillement. On ne peut pas continuer à vivre dans un désordre. Dans un désordre. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Qu'on aille au Bénin, qu'il y ait du monde partout sur les trottoirs, des commerçants partout, tout le monde se lève. Le matin, il va préparer son riz, il va mettre ça devant sa porte. Et puis, il n'y a plus de voie pour les passants. La voie publique, c'est pour nous tous. C'est pas pour les commerçants. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais pas. Donc, en matière de politique économique, vous savez, le gouvernement qui est là en ce moment, en talon, moi, j'ai lu son plan. Dans son plan, la réforme institutionnelle est en amont. Et après ça, il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits dans le pays pendant les 5 prochaines années. Vous voulez l'empêcher de réaliser ces réformes institutionnelles? Empêchez-le. Vous avez empêché Yaïboni. Moi, je n'étais pas FCBE. Mais la réforme que Yaïboni a proposée, on pouvait le faire. Mais on a dit non, parce que c'est plus opportuniste. Mais j'aimerais poser une question aux Béninois. C'est quoi vous appelez opportuniste? C'est quoi vous appelez opportuniste quand quelqu'un vient au pouvoir et déjà dans son premier mandat, il met en œuvre ses réformes. Il veut appliquer ses réformes. Et la personne vous a bien averti. Il a dit, je ne veux pas faire 10 ans. Donc la réforme, c'est pas pour lui. C'est pas pour Talon. C'est pour nous. C'est pour notre génération. Et notre génération n'est plus dans la génération de 90. Si vous voulez rester dans la génération de 90, cette génération émotionnelle qui a construit une institution, une constitution qui reflétait la réalité du temps T. C'est-à-dire, on était dans une situation de crise, il fallait trouver une solution pour s'en sortir. C'est pour ça qu'on a fait la conférence nationale. Et cette conférence nationale, les tests que nous avons sortis reflétaient l'époque que nous vivons. Aujourd'hui, cette époque est terminée.
Merci, monsieur Julien. Merci, et nous allons revenir après cette petite pause. Voilà, nous venons de suivre l'intervention de M. Julien par rapport à ce qui se passe au Bénin. Et il est entièrement pour ces réformes, mais ces réformes, certes, selon certains observateurs, c'est comme un bienfaiteur qui rentre dans une maison et demande à tout le monde de sortir et qu'il veut construire la maison. Maintenant, les gens doivent dormir dehors. Et vous trouvez ça normal, M. Adolphe?
Bon, je comprends bien l'inquiétude de mon frère Julien. Ok. Bon, en tout cas, et je suis en train de voir que le président Talon, il veut faire seulement un seul mandat. Oui. Donc, peut-être c'est ça qui le pousse à commencer très rapidement cette révision. Oui. Donc, mais M. Julien a soulevé quelque chose. Et vous savez, il nous faut beaucoup de sensibilisation en Afrique. Ouais. Et si les gens se lèvent, ils sont pour, ils peuvent manipuler l'information et que, bon, les gens peuvent les suivre. Et l'autre côté, ils sont contre, ils manipulent l'information et que les autres les suivent. C'est ce qui arrive souvent, même en Amérique, ça se passe. mais plus au pays. Et si je suis vraiment, mais comme je l'ai dit au début, si j'étais à sa place, j'allais attendre un peu. Parce que la Constitution, quand on dit on est en train de reviser la Constitution, il veut reviser la Constitution, en même temps, beaucoup de gens ont de... Là, nous avons l'intention négative. Vous voyez, nous avons la pensée négative. Et la plupart de nous, parce que ceux qui sont des opposants aujourd'hui, bon, peut-être la plupart d'eux ne veulent pas le succès du nouveau président, donc on commence par crier d'ici et là, vous voyez ce qui se passe. Donc le peuple togolais, le peuple africain, le peuple béninois, on a besoin de beaucoup de sensibilisation. Il nous faut assez de temps pour mieux comprendre les choses, vous voyez. Et je suis... Oui, bon, il est vrai que bon, la Constitution peut être changée, mais certains articles, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Et j'attends toujours l'article de terme présidentiel. Donc, si je suis à sa place, il faut attendre un peu pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir commencer les biennios, son programme qui va commencer par attirer les gens, que ça, les gens vont voir vraiment la positivité de son programme, les choses commencent par changer sur l'économie. Et quand on commence par l'applaudir avant qu'il introduise ceci, vous voyez que les gens ne seront pas très mécontents, très rapidement contre lui. Donc, c'est ce que je peux dire.
Okay. On revient.
Téléchargez l'application Sauvons l'Afrique sur Google, une démarche participative du développement de l'Afrique. Écoutez les grands débats de la diaspora consciente et envoyez vos suggestions. L'Organisation internationale Sauvons l'Afrique est une dynamique économique et financière animée par un groupe de la diaspora africaine. Nous sommes tous membres de cette organisation, tous ensemble pour une Afrique économiquement forte.
Écoutez les grands débats de la diaspora consciente et envoyez vos suggestions. L'Organisation internationale Sauvons l'Afrique est une...
Voilà, nous sommes dans notre émission Point de vue où nous recevons aujourd'hui M. Julien Kapovi du Canada qui a accepté, malgré son calendrier très chargé, d'être avec nous ce soir. C'est vraiment pour nous et un plaisir. Et M. Tamayon de Mago qui aussi pour la première fois participe à ce débat. M. Adolphe est souvent avec nous. Monsieur, merci à vous tous. Et nous sommes dans les dernières minutes et de cette émission, et les 60 minutes que nous avons, nous disposons pour l'émission ne nous permettent pas de rentrer dans tous les aspects du sujet. Et je crois donc que nous serons obligés de revenir avec beaucoup de détails dans ces réflexions pour aborder certains articles relevant de ce projet de révision. Et nous allons nous poser cette question enfin pour faire la clôture pour fermer cette partie de l'émission. Et talon aujourd'hui pour M. Julien le bienvenu. Et Monsieur Tamayon, il aurait pu attendre et d'abord s'occuper des priorités. Monsieur Julien ne reconnaît pas qu'il y ait ces priorités. Moi, je reconnais vraiment qu'il y a ces priorités parce que les coups de fil que nous recevons du pays déjà témoignent de la crise économique au pays. Et maintenant, il est question de la révision de la Constitution. Je ne sais pas si c'est un risque inutile que le gouvernement est en train de prendre, puisque si jamais le Parlement doit soumettre un référendum ce projet, je ne pense pas que le oui va prendre le dessus sur le non. Et aussi, l'opposition, je crois que l'opposition est en train de saisir cette occasion pour salir l'image de la nouvelle équipe, puisque ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, les commentaires et autres, ne sont pas justifiés lorsqu'on fait la lecture du test réel. C'est comme si certaines personnes ont mis en ligne d'autres tests pour dire, voilà, pour saler. Donc, Je crois donc que nous serons obligés, chacun à son niveau, d'aller revoir le texte original et pour voir effectivement qu'est-ce qui est préoccupant. Et pour sensibiliser à leur niveau, à chacun, pour sensibiliser ses parties, ses connaissances, et que nous pouvons relever ces défauts-là en ligne, sur les réseaux sociaux et autres. Parce que la situation que nous traversons aujourd'hui n'est vraiment pas de bon goût, puisque c'est comme si nous avons deux tests de cette révision qui a été soumise à l'Assemblée. Et ce que l'article 137, alinéa 2, que M. Julien vient de lire, est vraiment entaché de certains de choses-là à revoir et peut être amendé. Mais, comme M. Tamayon l'a dit, et c'est comme s'ils sont en train de saloper les crimes, comme si c'est des crimes de droit commun. Et les crimes commis par des autorités de cette taille-là devraient normalement être revenus à la haute juridiction, puisque c'est un crime de grande portée. Voilà. Donc, monsieur Julien, vous ne trouvez pas que c'est trop terre à terre cet article qui a été relevé au niveau de ce test-là?
Non, je ne pense pas, parce qu'il faut aussi des fois placer les sujets du point de vue politique. Et je pense qu'en mettant d'ailleurs l'un des interlocuteurs là a souligné tout à l'heure, en mettant les deux tiers pour voter par exemple une sanction contre les députés ou les ministres qui commettent ces champs de crimes de gouvernance, je pense que c'est une très bonne idée de mettre deux tiers, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les coups bas ne manquent pas, et en politique, les coups bas, il y en a tous les jours. Donc il faut mettre des garanties, il faut mettre des gages pour que un député soit sanctionné, au moins que... Imaginez par exemple, je prends un cas précis. Imaginez, je suis dans le gouvernement du Talon et que je ne commets pas un crime et que les actions que je suis en train de faire pour le peuple ne sont pas acceptées par l'opposition, parce que l'opposition pense clairement que si jamais ces actions fonctionnent, la popularité sera là, je vais gagner les prochaines élections, on peut me créer des problèmes. On peut aller chercher des petits trucs pour dire, bon, ok, monsieur, il a donné un marché à telle personne alors qu'il ne devrait pas faire ça, alors que ce n'est pas une réalité. Donc, à l'Assemblée nationale, il peut convaincre facilement les opposants à voter contre, à voter pour que je sois sanctionné. Alors que si on met deux tiers, au moins, ça amène les députés à travailler, à argumenter, à à montrer les documents, les faits, qui montrent exactement que ce député a failli, que ce ministre a failli. Dans ce cas, je pense, pour les gens qui ont de bon sens, et qui pensent vraiment bon dans leur intérieur, peuvent dire, ok, ce dont parlent ces gens-là, c'est une réalité. Le gars, il a vraiment triché, le gars, il a vraiment, il a été vraiment corrompu. Là, même son temps peut voter pour le sanctionner. Alors, je pense que fondamentalement, pour la première fois de notre histoire, nous avons des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui contextualisent. Il faut juste que nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'intellectuels, nous, en tant qu'élite, il faudrait peut-être des fois faire confiance à nos autorités, à ne pas interpréter et à ne pas anticiper sur les envies et les souhaits de nos autorités. Sinon, nous n'allons jamais avancer. Donc, je pense que cet article est très clair dans le monde entier. Regardez, prenez le cas de la France. François Fillon vient d'être mis en examen. Mais rien ne l'empêche d'être candidat. Mais c'est hallucinant. Donc, pour vous dire, c'est très compliqué. La réalité politique, elle est très complexe. Donc, essayons des fois de nous accorder un peu de confiance et dire que oui, il nous faut cette réforme. Vous êtes tous d'accord, il nous faut cette réforme. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera dans 5 ans, on le fera dans 10 ans.
Mais la seule chose que j'aimerais ajouter à ça, parce que je ne suis pas constitutionnaliste, je ne veux pas rentrer dans les juridictions de droit commun, de ci et de ça. On a besoin des experts pour intervenir sur ces genres d'aspects. Et c'est là où j'interpelle même la commission qui a été mise en place par le président de la République au lendemain de son élection. Cette commission aujourd'hui, qui était animée par des constitutionnalistes, des juristes, et puis la classe politique. Moi, j'étais là, j'étais à l'hôtel Azanayi, quand les gens venaient pour intervenir, pour faire des propositions. J'étais là. Nous, même notre réseau a fait une proposition. Et je vais en venir parce que nous sommes en 2017. Et en 2017, moi, personnellement, moi qui vous parle, je suis pour cette réforme, mais néanmoins, je pense qu'on doit faire des amendements. Et c'est le rôle des députés. C'est le rôle, c'est le processus normal législatif où le président propose, les gens font des amendements, les gens corrigent, les gens amènent d'autres propositions. Et c'est le moment où nous, les gens de la diaspora, nous devons amener des propositions et dire clairement, nous sommes en 2017, la diaspora a toujours contribué au développement économique de notre pays, mais est-ce que cette constitution prend en compte le rôle et l'implication formelle de la diaspora dans cette constitution? La réponse est non. Mais néanmoins, je soutiens cette réforme. Peut-être que nous n'en sommes pas encore là, à cette maturité d'impliquer les Béninois de l'extérieur dans cette réforme. Pour faire en sorte que, au moins demain, écoutez, le Sénégal l'a fait. Le Sénégal, dans sa prochaine législature, aura des députés de la diaspora. Donc, nous aussi, au lieu de s'embarquer dans une opposition radicale, excusez-moi, et socialiste, syndicaliste, je pense que nous sommes à un moment où nous devons dépasser ces émotions, nous devons dépasser ces genres de pensée et faire des propositions constructives pour améliorer le texte qui est proposé.
Voilà.
C'est normal. C'est normal.
Merci, monsieur Julien. Merci, monsieur Julien. Et je vous rappelle que nous venons de boucler les 60 minutes que nous avons pour cette émission. Et nous allons donc passer pratiquement aux conclusions, donc les mots de fin de fin, notre dernier mot d'émission. Donc je pense que je vais devoir remettre la parole à Taméon pour nous dire simplement son dernier mot. Et par rapport à cette réalité, nous constatons donc que M. Julien défend le fait qu'il faut vraiment réviser. Et lorsque nous regardons un peu les tests et considérant que la commission des lois n'est pas une commission morte, c'est pas des cadavres qui sont dans cette commission, je trouve donc que c'est déjà ceux qui s'y connaissent. Mais le problème au Bénin, c'est que la corruption et la vitesse du CFA ne fera pas de bonnes choses, M. Taméon. Est-ce que vous ne trouvez pas que le CFA peut encore mélanger le pédale?
Oui, mais je voudrais d'abord dire qu'en termes de temps de parole, Kakouvi a eu la part belle. J'ai tellement d'idées à développer que on s'est suffisamment retrouvé à la fin.
Je croyais que j'étais plus calme aujourd'hui parce que j'ai
pas de. Ah oui, je le connais. Il devrait être seul pour une interview. Ouais. Mais quand même, il pourrait revenir. Mais bon, c'est que nous sommes déjà donné 10 minutes puisque on a déjà eu encore 8 minutes de plus. Donc, nous serons, la vie prochaine fois, je trouve que M. Taméon va se rattraper.
D'accord. Je voudrais conclure tout de suite avant de parler du CFA. Je voudrais conclure que, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis que nous sommes en train de discuter. Et puis, je me dis, ne doit-on jamais réviser une constitution? C'est vrai, on doit réviser une constitution de temps à autre. Une révision de la Constitution doit être une approche mûrie. C'est vrai que ça suit légalement l'article 155 de notre Constitution. C'est la bonne procédure de révision de Constitution, mais le contexte sociopolitique ne s'y prête pas, le contexte socio-économique ne s'y prête pas, et aussi le test comporte beaucoup d'irrégularités. J'ai écouté, par exemple, le professeur Alain Zoglele qui a rédigé notre constitution et qui a proposé ce test, et il n'est pas d'accord pour que le test soit révisé ainsi. J'ai écouté beaucoup de personnalités qui sont contre. J'ai écouté le professeur Awansou qui est contre. J'ai écouté Joël Aivor qui n'accepte pas. J'ai écouté beaucoup de spécialistes de droit constitutionnel. Mais aussi, le problème, c'est que quelqu'un comme Théodore Olo, j'aurais souhaité l'entendre, et j'aurais souhaité aussi voir des gens de la classe politique, des personnes qui ont été contre les révisions de la Constitution, comme comment on appelle déjà. Ben, j'ai perdu son nom. Je n'ai pas entendu. Il y a certains qui sont restés silencieux, un silence terrible. Et ensuite, lorsque nous parlons de réviser la Constitution, dans ce cas, plus de 40 articles ont été touchés. Même si le préambule n'a pas été touché, j'ai quand même l'impression que dans l'esprit de cette Constitution, il y a quelque chose qui est en train de partir. Et je propose cette approche, l'approche américaine. Les Américains n'ont jamais touché leur constitution depuis 1789. Le texte, le socle même est resté là, inamovible. Et c'est des amendements qu'on fait, des amendements qui sont faits, les amendements représentent un autre livre, un livre à part qui ne fait pas partie du socle constitutionnel. Si bien que la boussole originelle du constituant de départ est toujours là pour les Américains et se réfère à ça. Et tous les amendements sont alignés sur le socle. Et nous avons besoin, pour moi, on a besoin de ce socle. Cette loi 90-032 du 11 décembre 1990 est un socle. Et nous pouvons faire des amendements dans un autre livre. Je propose ça. Les Américains n'ont pas réussi de tout point de vue, mais de ce point de vue, c'est une pratique constitutionnelle que nous pouvons adopter. C'est mon avis sur la question, au lieu de tenter de réviser le test même. Sinon, à un moment donné, on ne saura plus d'où on est parti. Vous voyez, voilà. C'est ça mon inquiétude. Sur la question du CFA, c'est raisonnable, c'est terrible. Ça fait partie des facteurs de paupérisation des masses en Afrique francophone, et la jeunesse africaine est en train de se réveiller là-dessus. Nous faisons beaucoup de lobbying dans des forats indiqués, et je pense que les dirigeants ont commencé à comprendre que forcément, il faut faire dos à cette monnaie. Il faut donner un pied.
Monsieur Tavillon, peut-être que je n'ai pas bien formulé la question. C'est de savoir si, et à l'allure vont les choses, connaissant bien notre classe politique, et le dossier a été confié à la commission des lois, vous ne trouvez pas que le poids du CFA, c'est l'influence du CFA, c'est-à-dire peut détourner l'attention des membres de cette commission et aller en faveur du contexte dans lequel le gouvernement a prévu cette révision.
Absolument. Je pense que le test de révision, le test portant modification tel que c'est proposé, ça porte atteinte à la morale. Il y a quelque chose d'amoral et d'immoral, d'anti-éthique dans ce test qui, ça baisse les standards. Ça baisse les standards. Et c'est grave. C'est grave avec ce genre de députés que nous avons aujourd'hui. Vous savez, ceux qui ont volé l'argent de l'eau sont allés se cacher là-bas. Ils sont là-bas. Ceux qui sont coupables de faits de détournement graves, ils sont tous là-bas. Ceux qui se sont rendus coupables de malversation dans les affaires de machines agricoles, ils sont allés se cacher là-bas. Et est-ce que nous pouvons faire confiance vraiment à la pègre qui gangrène notre assemblée actuellement? Le peuple doit se lever et lutter. Et c'est fondamentalement de ça qu'il s'agit. Quand on a des gens comme ça à l'assemblée, alors là, on ne peut pas se croiser les pas et attendre. Et il y a Capovi qui disait que la Constitution reflétait la situation d'alors. La Constitution de 90 reflétait la situation de 90, c'est vrai. Et c'est exactement la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est érigée en règle de loi qui nous a conduit à et la constitution, à la conférence des forces vives de la nation, et on a abouti à la constitution du 11 décembre 1990. Et maintenant, la mauvaise gouvernance a pris davantage d'ampleur. Entre 1996, après le départ de Soglo, jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est rentré dans un cycle infernal, c'est-à-dire à croissance exponentielle en termes de mauvaise gouvernance. Et au lieu de voter des lois au rabais, nous devons monter la dragée. Il faut mettre la barre haute. Hein, il faut mettre la barre haute et punir. Parce que ça, des tests de loi pareil encourage l'impunité. Et nous ne voulons pas ça au Bénin. Nous ne voulons pas ça au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants vivent dans la misère. Hein, trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
Merci, monsieur. Merci, monsieur Tabéon. Et nous allons revenir avec cette petite pause pour retrouver monsieur Adon. Voilà, et ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, monsieur Adolphe, et c'est comme nous avons un curé qui ne sait pas dire la messe. C'est comme, bon, je m'explique, nous avons une démocratie qui ne donne pas de développement. Est-ce que c'est de cette démocratie que vous avez besoin au Togo, monsieur Adolphe?
Non, absolument non. Et vous savez, le Bénin est un modèle pour nous. Nous, au Togo, on pleure et on cherche à être comme Bénin. Ouais, on cherche à être comme Bénin. Donc, vous savez, en Afrique, tout ce que les présidents font, surtout de mauvais côtés, c'est ce que les autres suivent. Nous voulons que le Bénin soit sur de bons rails, que le Bénin aille en avant et que nous voulons les suivre. Et nous battons fort. Donc, je pense que il faut pas que... Oui, que cette révision de constitution soit quelque chose au rabais et que nos dirigeants au Togo vont commencer par dire « Regardez, c'est comme ça. » Non, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas. Nous voulons vraiment suivre le Bénin. Que le Bénin continue pas à être un modèle. Parce qu'un jour, quelque chose s'est passé, l'ancien président béninois Soglo qui disait que le Bénin n'est pas comme le Togo, hein. Et c'était vraiment honteux pour nous, les Togolais. On avait partagé ça sur les Facebook. Donc, je prie beaucoup pour le Bénin, je prie beaucoup pour le nouveau président, M. Talon. Nous l'aimons beaucoup et nous voulons qu'il réussisse vraiment dans sa politique de développement, surtout de développement. Les tests sont là quand même, mais pour les toucher, il faut faire très attention. Nous voulons que l'économie béninoise aille en avance. Yes. Et nous voulons aussi le développement de leur démocratie continue par aller en avant pour que nous, les Togolais, nous commençons peut-être, je ne sais pas, à revenir dans leur pas. Donc, oui. Donc, je suis très fier d'être parmi vous ce soir. Et M. Julien et M. Tamignon, j'ai vraiment suivi les développements de vos arguments. Vraiment, c'est intéressant. Je sais que vous êtes béninois, vous connaissez mieux les problèmes béninois que nous. Et là où vous êtes aujourd'hui, les Togolais cherchent à être là-bas. Et surtout que vous voulez aller en avant, nous prions pour vous. Et nous allons vous suivre. Donc, priez pour nous au Togo, priez pour nous parce que le Togo vraiment continue pas à aller dans le gouffre. Donc, mais Dieu est là. Et merci, M. Gabin, de m'avoir reçu dans cette émission. Et merci beaucoup, les frères Julien et Tamignon. Que Dieu vous bénisse.
Merci. Bon, nous allons nous accorder 20 secondes. Je vais dire 20 secondes à Julien, 20 secondes à Tamillon pour faire l'emballage de l'émission et juste après et cette petite pause.
Koyene façon
Mbale mwalu tombo kutuye nefasoye Mbuye nefasoye Sinilu tombo kutuye nefasoye.
Voilà, et nous sommes à la fin de cette émission où nous recevons trois invités, M. Kapovich Julien du Canada, M. Tameyon Demagbo de Indiana aux États-Unis, M. Adolphe Bagan de Tennessee aux États-Unis. Et pour le mot de fin, nous accordons 20 secondes à nos deux invités qui défendent, comme étant béninois d'ailleurs, et qui défendent leur constitution. Et Monsieur Julien, qu'est-ce que vous voulez, quel est ce mot que vous voulez envoyer à l'endroit des Béninois qui nous écoutent?
Écoutez, aux Béninois, surtout à la classe politique, s'il y en a encore une classe politique, c'est d'ailleurs le sujet même de cette réforme, c'est de faire en sorte pour qu'on ait désormais une classe politique bien structurée, bien organisée, même s'il faut la contrôler un petit peu, des fois il en faut, pour pouvoir mettre de l'ordre dans la structuration politique de notre pays. Ça fait des années que nous arrivons d'avoir, tout à l'heure, M. Tonnerre parlait de la démocratie de Tocqueville. Tocqueville est venu aux États-Unis, il a copié la démocratie américaine, il est rentré après en France, il en a bien insulté aux élites française. J'aimerais aussi que nous qui sommes en Amérique du Nord qu'on ait un peu cette façon pragmatique de voir la société et de penser réforme et sans passer insignation, sans passer préjugés et d'aller de l'avant. Faisons confiance à la commission des lois, c'est des gens compétents, c'est des élites compétents qui sont là, ils vont analyser les tests et ils vont essayer d'apporter le côté un peu juridique pour que ça puisse être conforme à la justice et puis à la loi. Et au-delà de ça, pour le peuple béninois, j'ai un seul mot à leur faire passer. Écoutez, faisons confiance en 2017 où la technologie de l'information, les peuples, ceux-là qui ont étudié un petit peu, qui ont un petit grain de connaissance, ils vont comprendre ce que le gouvernement est en train de proposer. Faisons confiance et soyons patients. Ne nous jetons pas dans les bras des financiers, des opposants qui pensent déjà à 2021. Nous sommes là aujourd'hui, pensons aujourd'hui et accompagnons. Le président Talon qui n'a pas un parti politique aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que je ne vois pas pourquoi ça pose problème, parce que pour que les députés puissent voter cette loi, il va falloir qu'il aille convaincre tout le monde. Voilà. Je ne veux pas penser que derrière il y a de l'argent qui va circuler pour que les gens puissent voter pour cette loi. Je ne pense pas. FCBE qui est là aujourd'hui est un parti de l'opposition. Léon Zondagi a pris le dessus de FCBE, il fait l'opposition carrée à cette réforme. Donc je ne pense pas que les FCBE à part Zinsou, qui a dit qu'il est pour cette réforme, et Zinsou n'est pas au Parlement, vont voter pour cette loi. Donc ça revient au gouvernement de faire son travail pour aller chercher les deux tiers de notre Parlement pour que cette loi puisse passer. Référendum, voilà. Je veux bien.
Ok,
Excusez-moi. Je pense qu'on va donner un peu de temps pour être là. Donc il va falloir quand même laisser un peu de temps à tout le monde pour dire vraiment le fond de leurs idées, parce que peut-être que demain on n'aura plus le temps. Tu comprends? Donc, excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout de mon idée parce que c'est important.
Bon, nous allons fermer l'émission et ça, c'est pour une durée et pour le format de l'émission ne peut
pas. Parce que j'aimerais réagir une minute.
Bon, 20 secondes. 20 secondes.
Une minute. Sur le CFA. Sur le CFA. C'est la même chose.
Bon.
L'Afrique.
Oui.
Surtout l'Afrique francophone qui utilise le CFA n'aura pas sa propre monnaie si nous continuons à réclamer la paternité de cette monnaie.
C'est ça.
Si nous continuons dans la radicalité, il est important de considérer que chaque nation doit défendre ses intérêts. On doit défendre nos intérêts. Et la défense de nos intérêts part du fait que nos pays soient structurés. nos pays puissent avoir une économie qui fonctionne, nos pays puissent faire rentrer des devises. Et sur la base de ça, nous serons forts. Et voilà. C'est à partir de là qu'il faut négocier une sortie du CFA. Mais néanmoins, il faut continuer le travail de lobby. Lobby dans l'ombre, pas dans la rue. Pas dans la rue. Il faut négocier. Il faut que nos politiques de demain négocient avec les chefs d'État, avec le chef d'État français, en fait, en réalité. Et moi, je vous annonce que la nouvelle politique France-Afrique que prône Emmanuel Macron aujourd'hui, nous sommes derrière. Et nous faisons ce travail de lobby pour que nous pensions une nouvelle politique France-Afrique pour demain. Et le CFA, avec Emmanuel Macron, peut-être, nous allons essayer de négocier avec les leaders de demain de l'Afrique pour que nous puissions avoir notre propre monnaie. Mais pour y arriver, il nous faut une économie forte.
Merci,
une économie sans corruption. Une structure politique démocratique. Que ce soit au Togo, au Bénin, au Gabon, au Congo, il faut que les gens, il faut que notre politique soit démocratique. C'est à partir de là que nous avons toutes les marges de manœuvre pour négocier. Mais si voilà. Nous n'en sommes pas encore là, on va toujours nous considérer comme des enfants. Merci.
Merci. Merci, Monsieur Julien. On revient pour...
Koyene fasoe, mbale mwalu tomboktu yene fasoe. Koyene fasoe, sinye lout.
Voilà, Monsieur Tamayon, merci d'être patient avec nous. Et nous sommes donc à la fin de cette émission. Et je crois donc que vous partagez pas la position de M. Julien et en ce qui concerne cette démarche. La commission va faire son travail. Et lorsque nous savons que dans cette même assemblée, et c'est un lieu de refuge pour certains qui sont mêlés à plusieurs malversations, et dans ces conditions, est-ce que vous êtes sûr, nous ne sommes pas sûrs, vous l'avez déjà dit, que à l'issue de ces travaux sera favorable. Et la population, si jamais elle est appelée à voter, je crois donc que ce sera une surprise, le non va emporter. Et dites-nous un mot à l'endroit de la population, monsieur Tamayon.
Oui, un mot à l'endroit de la population. Je voudrais dire un mot à l'endroit de l'exécutif, de son chef. De mon président. C'est vrai, nous l'accompagnons. Nous avons beaucoup d'espoir à son arrivée. Et au départ, moi, j'avais beaucoup d'inquiétude avec lui parce que, à cause des conflits d'intérêts possibles, parce que je ne voyais pas un homme d'affaires diriger le Bénin. C'était clair là-dessus. J'ai pris langue avec ceux qui, mes grands frères, les hommes politiques qui, au départ, sont déjà allés avec lui. J'ai pris langue avec eux et puis je ne les comprends pas. Et puis, la suite, apparemment, ça a commencé à me donner raison. J'étais foncièrement contre le gouvernement Yahi, c'est vrai, parce que je n'ai jamais vu autant de mauvaise gouvernance au Bénin. Mais Talon est sur la même lancée. Je voudrais lui demander d'écouter le peuple et d'oublier un peu ses intérêts personnels. Et je sais qu'il est un homme d'affaires et le réflexe d'homme d'affaires revient, l'instinct d'homme d'affaires revient tout de suite et jugule les valeurs de l'homme d'État. Et ça, nous ne voulons pas voir ça. C'est important pour nous. Nous voulons que les points fondamentaux du plan quinquennal, le Bénin révélé, qu'il s'attache à ça, qu'il s'attaque à ce point et qu'il nous donne satisfaction. Nous voulons voir du concret. Et qu'il récupère ses intérêts avec ses entreprises, ça, et là, qu'il se relance sur le plan économique, et ce n'est pas mon problème. Il est là en tant que chef d'État, et je voudrais le voir en tant que chef d'État et non en tant que en tant qu'homme d'affaires. C'est le plus important pour moi. Et puis, le peuple, quant au peuple, nous avons, c'est vrai, nous avons élu nos députés. mais nous ne pouvons pas aller dormir sur nos deux oreilles, et nous devons aller monter, aller dans la rue tant qu'il le faudra, il faut qu'on aille dans la rue et pour qu'ils sachent que nous sommes toujours là et que nous avons nos désiderata à prendre en compte. C'est une forme de pression sur les gouvernants qui peut aboutir. Parce que si on n'avait pas pris la rue, on n'aurait jamais eu de conférence nationale. Vous voyez, ils sont en train de s'écarter, la classe politique est en train de s'écarter du consensus. Et nous devons leur dire tout le temps que nous sommes là. Et c'est important. Au peuple, je voudrais dire, au peuple béninois, au vaillant peuple béninois, vraiment, je voudrais dire qu'il va continuer, qu'il faudra continuer de lutter, hein, qu'il va falloir continuer de lutter. C'est important, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Et je pense que tout ira pour le mieux quand nous serons attachés à nos valeurs républicaines. Merci.
Merci, monsieur Tameillon. Merci, monsieur Julien et Kakovi du Canada, monsieur Tameillon Demago de Indiana, monsieur Adolphe Dagan de Tennessee. Merci d'être venu pour cette émission. Moi-même au micro, Gabin Conrad. Merci et à très bientôt.
Merci beaucoup, Gabin.
Merci au revoir.
Sur l'émission Point de vue, le carrefour des réflexions, des analyses sur les sujets touchant la vie socio-économique et politique de notre continent. Point de vue, une réalisation et présentation de Conrad Gabin.